Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. Fin 2024. Publication de la liste rouge des écosystèmes en France. Qu'est-ce qu'une liste rouge des écosystèmes ? En quoi cela peut-il nous éclairer sur l'état du vivant en France aujourd'hui ? Quelle est la part du dérèglement climatique dans l'évolution de ces écosystèmes ? Pour la première fois, la liste rouge des écosystèmes en France évalue les forêts de montagne, de l'Hexagone et de Corse. Parmi les 19 écosystèmes évalués selon les critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, 10 de ces écosystèmes sont menacés et 6 apparaissent quasi menacés, principalement par le changement climatique. Ce constat est le résultat d'analyses coordonnées par le comité de l'UICN, l'Office français de la biodiversité et le Muséum national d'histoire naturelle. Fondé sur les connaissances existantes et l'expertise de nombreux écologues forestiers, des scientifiques qui traînent beaucoup dans les forêts. Alors que la surface des forêts a connu une augmentation depuis le milieu du 19e siècle, sa vitalité semble largement altéré. Selon le dernier inventaire national forestier produit par l'Institut national de l'information géographique et forestière, l'IGN, et publié le 10 octobre 2023, sujet de l'épisode Feuille de chou, numéro 19. La surface forestière augmente toujours, mais les arbres meurent ou se dégradent davantage. Les forêts de montagne subissent aujourd'hui des bouleversements liés à de multiples pressions d'origine humaine, locale ou globale, alerte l'UICN. Épisodes de dépérissement ou diminution du renouvellement forestier, modification des communautés, d'espèces, d'arbres, d'arbustes, de végétaux. Les forêts sont exposées à des conditions climatiques qui diffèrent de plus en plus de celles qui ont permis leur développement. Pas la même température, des événements extrêmes à la chaîne, inondations, sécheresses, une grande incertitude pèse sur leur avenir. Malgré la pléthore de recherches, l'UICN annonce qu'il est difficile de prévoir leur trajectoire future face au cocktail de pression qu'elles subissent. On ne peut oublier l'importance des forêts, héritage de la sylviculture et de déprise d'activités agricoles et pastorales, et des montagnes conservant une biodiversité unique, héritée des dernières ères glaciaires, avec des populations d'espèces dites reliques qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Les experts appellent à agir afin d'assurer l'avenir des forêts de montagne et de leurs services écosystémiques. Ces actions passent d'une part par la restauration et la préservation de la biodiversité forestière et d'autre part par la durabilité des programmes de surveillance des forêts, qui constituent des sources d'informations essentielles pour élaborer des actions efficaces et les adapter aux évolutions. La principale mission de cet état des lieux est donc de rendre compte pour orienter les politiques publiques, surtout depuis que la loi biodiversité de 2016 impose la mise en place d'un plan d'action pour chaque espèce menacée, comme pour l'apron du Rhône, la couleuvre de Mayotte ou le pétrel noir de Bourbon à La Réunion. Autre rôle de cette liste, et non des moindres, fournir des arguments pour les études d'impact environnemental, afin de préserver les habitats et espèces menacées des projets d'aménagement. La présence d'espèces protégées ou d'habitats menacés sur l'emplacement d'un projet est un facteur déterminant qui est souvent à l'origine de contentieux juridiques, pouvant ralentir, voire remettre en question les projets. Si la liste rouge donne une vision de plus en plus précise du niveau de menace, elle met aussi en évidence le manque de connaissances et une forme de sous-estimation de la situation. Quand on regarde la liste rouge des espèces, par exemple, on voit que plus de 3200 espèces sont classées en catégorie données insuffisantes. Donc, en réalité, ce bilan permet surtout d'identifier les priorités de connaissance pour les habitats ou les groupes d'espèces qui sont les plus méconnus. De quoi fournir aux scientifiques investis dans cette démarche un planning de recherche bien fourni pour les années à venir. Mais alors, comment fait-on pour estimer qu'un écosystème est en danger et menacé? Revenons sur la définition même d'un écosystème. Dans le dico des scientifiques, un écosystème est un ensemble d'êtres vivants qui interagissent au sein d'un milieu naturel dans lequel ils vivent et dont l'ensemble constitue une unité écologique fonctionnelle dans un espace délimité. Bon, un écosystème. En clair, des espèces qui se fréquentent dans un milieu où elles se sentent bien et vont rentrer dans un cycle où le vivant alimente le milieu en déféquant, en mourant, en végétant. Et le milieu alimente le vivant avec tout ce qu'il peut produire, de l'eau, des nutriments, j'en passe. La liste rouge des écosystèmes de l'UICN évalue le risque d'effondrement de ces écosystèmes en décrivant et en analysant l'état des assemblages d'espèces, des propriétés physico-chimiques et des principaux processus et interactions entre monde vivant et milieu, caractéristiques de ces écosystèmes et qui régissent leur fonctionnement. La méthodologie s'appuie sur 5 critères à contrôler pour savoir si l'habitat est menacé. Est-ce qu'il y a une réduction de la distribution spatiale? Bon, en clair, est-ce que l'habitat est moins représenté spatialement? Est-ce qu'il y a des facteurs qui empêchent cet habitat de s'étendre? Est-ce qu'il y a une dégradation du milieu? Est-ce qu'il y a une perturbation des interactions, comme par exemple pourrait produire une pollution? Quand on a fait le point là-dessus, on aborde ce dernier critère. Quelle est la probabilité de l'effondrement de l'écosystème? Pour ça, on fait tourner des formules mathématiques de dynamique des populations, on adore ça en écologie scientifique, et pouf, une modélisation sur l'écosystème en question apparaît. Plusieurs listes rouges écosystémiques ont été élaborées, au niveau régional notamment par les conservatoires botaniques nationaux. Au niveau mondial, ce principe de liste a été appliqué ou est en cours d'application sur différents territoires, que ce soit à l'échelle des continents, Amérique, Europe, de pays, Venezuela, Colombie, Australie, ou de régions biogéographiques, ou pour des types d'écosystèmes bien particuliers, comme les récifs coralliens ou les forêts boréales. C'est bien charmant tout ça. Mais que se passe-t-il quand on est dans une forêt, sans notre téléphone, et à ne pas savoir quoi faire? Tic-tac. Le temps est venu de dresser la feuille à un récit sorti des fourrés. Un jour de rien.
Nous y étions pour la deuxième fois, ma mère et moi, dans la même maison de vacances. La même forêt et la même pluie. Chaque jour, ma mère écrivait en silence et moi, je tuais des martiens. Plus exactement, je pressais un bouton pendant des heures en pensant à mon père, à tout ce qu'il m'aurait montré dehors avec son sourire émerveillé. Encore une fois, ma mère grogna. Arrête avec ce jeu! Tu vas de nouveau passer ta journée à ne rien faire? Oui, voilà, je ne voudrais rien faire. Rien? Sauf tuer mes martiens. Encore une fois, elle m'arracha le jeu des mains. Encore une fois, je le repris en cachette. Après quoi, je sortis. En ouvrant la porte, je sentis que tout l'ennui du monde s'était donné rendez-vous dans ce jardin, sous la pluie. Je serrai fort ma console. pieds dans la boue, lunettes trempées. Je mis le jeu dans ma poche pour qu'il ne se mouille pas. La pluie ruisselait dans mon cou. Je descendis la colline. Au fond du chemin, j'aperçus un étang pavé de rochers, ronds comme les têtes de mes martiens. Je voulais les écraser en sautant dessus. Et soudain, mon jeu tomba dans l'eau. Non, non et non ! La pire tragédie du monde ! Quel idiot ! Tout de suite, je tentai de repêcher la console en plongeant ma main dans l'eau glacée. Oh, cela me coupa le souffle. Maintenant qu'allais-je faire sans mon jeu ? Les gouttes cognaient comme des pierres sur mon dos. J'étais un arbre perdu dans la tempête. À ce moment-là, ils apparurent dans l'orage. 4 escargots géants sous la pluie. « Est-ce qu'il y a quelque chose à voir par ici ?» leur demandai-je abattu. « Oh oui !» me dirent-ils. J'osais toucher leurs antennes, molles comme de la gélatine. Du coup, j'empruntai un sentier. Là, des dizaines de champignons me rappelèrent une odeur. Celle de la cave de papy, où petit je cachais les choses précieuses. J'avais oublié. Ensuite, la terre se mit à briller, illuminée de trésors. J'enfonçai les doigts dedans, et là, graines et granules, noyaux, grumeaux, racines et baies, fourmillaient sous mes mains. Un monde souterrain plein de micro-choses inconnues. Je pouvais le toucher. Puis quelque chose m'aveugla. C'était les rayons de soleil qui tombaient maintenant à pic, comme dans une passoire géante. Je crus entendre des tambours au loin. Mais c'était juste mon cœur. Je me mis à courir très vite, tellement vite que je tombais. Et là, une fois en bas, le monde était à l'envers. On aurait dit que tout avait été refait à neuf. Chaque chose me semblait inconnue. Alors je décidai de grimper sur un arbre et de regarder au loin, de renifler l'air en gonflant mes poumons, de boire la pluie comme un animal, d'observer des insectes bizarres, de parler à un oiseau, de sauter dans une flaque en éclaboussant partout, de ramasser des cailloux lisses et transparents et d'y voir à travers le monde qui brillait. Pourquoi n'avais-je jamais fait ça auparavant ? Trempé jusqu'aux os, j'entrais dans la maison, me déshabillant en vitesse et courus me regarder dans la glace. Oh, j'y vis mon père et son sourire émerveillé. Ma mère écrivait toujours. Pour la première fois, on écoutait le même silence. Tu es sale comme un petit cochon. Viens te sécher. Elle prit une serviette et m'emmena à la cuisine. Alors j'ai envie de la serrer fort, de lui raconter tout ce que j'avais vu, senti, goûté, appris dehors. Mais on ne fit que se regarder, respirer l'odeur de notre chocolat chaud, rien que ça, en ce magique, incroyable jour de rien.
Inventer l'infini du rien à partir de quelques morceaux de bois et des petits cailloux. En voilà une bien riche idée, digne des plus grands aventuriers du monde vivant. Encore faut-il en trouver des bouts de bois et un sol pour les y planter. Entre tous les changements de climat et le sol qui pâlit, que peut-on imaginer planter demain ? L'audi Our Forest Tomorrow, nos forêts demain, sur le site de developmentseeds.org, propose d'imaginer le devenir de 67 espèces d'arbres en Europe, jusqu'à l'horizon de l'année 2095. Une fois que vous avez choisi l'espèce qui vous intéresse, vous avez le choix entre deux scénarios climatiques. Celui où au moins la moitié des émissions est réduite avant l'horizon 2050, et celui où on continue, comme d'habitude, business as usual, En clair, le scénario où on ne change rien dans la course effrénée de consommation des ressources et des émissions de gaz à effet de serre. La carte qui vous est dès lors proposée met en évidence les zones géographiques où l'espèce sera vouée à disparaître ou à apparaître pour correspondre à la niche écologique actuelle. Ces scénarios comprennent aussi une marge d'adaptation symbolique, car il demeure difficile de savoir si, sur le plan génétique, il sera possible d'avoir un patrimoine suffisamment diversifié afin de permettre une adaptation de génération en génération face aux divers bouleversements climatiques et humains à venir. Ce petit jeu de projection, Our Forest Tomorrow, est en libre accès sur le site developmentseed.org. Les arbres, on peut s'y intéresser au niveau européen, au niveau français, voire même dans les Hauts-de-France. Dans la nuit du 28 au 29 janvier, de drôles de personnages ont accroché hamac et bâche entre les branches de deux imposants platanes, bordant une route très fréquentée de Compiègne dans l'Oise. Ces militants, dits les écureuils, qui occupent des arbres pour les défendre, se sont installés là pour protester contre le canal Seine-Nord-Europe. Un projet qui va, pour sa mise en œuvre, entre autres, abattre quelques 300 000 arbres.
Problème climatique,
ça m'attriste,
les twisters qui rappliquent.
Grimper toujours plus haut, dans cette cime vivante qui s'étire dans les cieux. Toucher de près la perfection d'un être chlorophyllien qui éteint ses racines plus longtemps qu'un humain ne peut vivre. Goûter un instant à la joie qu'il soit encore là quand on ne sera plus. Élément central guidant les assemblées de nos enfants et de celles et ceux que nous avons aimés. Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une passionnée du vivant, cuisinée aux petits oignons.
Des landes palissandres, mais l'aise tremble, tremble être noyée.